nouvelle exposition permanente est en place depuis mars 2019 dans le fort de la Citadelle. Elle s'intitule « Défendre l'île, histoire du fort de la pierre levée ». Annabelle Chouviteau, bonjour.
Bonjour.
Tu es guide conférencière au service patrimoine à la mairie de L'Île-Dieu.
Tout à fait.
Cette exposition retrace quelle partie de l'histoire de L'Île-Dieu ?
Alors en fait, c'est vraiment une exposition qui se veut explicative de la présence de ce fort sur l'île. Et donc, elle retrace surtout l'histoire de l'île au XIXe siècle, puisque le fort de Pierre Levée que l'on connaît aujourd'hui n'est pas le fort originel. Hein. Avant lui, on en avait un autre qui a été construit en 1804 sur l'ordre de Napoléon. Et donc,
finalement, au même emplacement qu'aujourd'hui ?
Exactement au même emplacement, mais il était plus étendu. Il allait quasiment de là où est construit le fort actuel jusqu'à la gendarmerie. Donc, il était moins bien fait. Il a été fait hyper rapidement, mais beaucoup plus étendu.
Et il a été détruit ?
Alors oui, en fait, il a été détruit parce que le problème qui se passait à l'époque de la construction de ce premier fort, c'est que les soldats qui étaient censés défendre l'île ne logeaient pas à l'intérieur de ce fort. Ils logeaient en grande partie à Saint-Sauveur, mais aussi chez l'habitant, un petit peu partout sur l'île. Hein. On est là autour de 1500 soldats quand même en 1804. Et le souci, c'est que si jamais il y avait une alerte, il fallait qu'ils arrivent de leur lieu de résidence jusqu'au fort pour pouvoir le défendre. Donc ça pouvait prendre quand même plusieurs minutes. Donc forcément, la défense n'était pas optimum de ce fait-là. Quoi.
C'est pour ça qu'il y a un panneau explicatif sur toute l'histoire de Saint-Sauveur.
Voilà. En fait, bien sûr, quand ce premier fort a été construit, il n'a pas été pensé tout seul. Hein. Il a été vraiment pensé dans un ensemble. Et cet ensemble, il a été conçu grâce à un général qui s'appelait Henri Bertrand, qui est venu sur l'île donc, au tout début du 19e siècle et qui a dû faire un compte-rendu à Napoléon pour un petit peu repenser la défense de l'île qui, à l'époque, était quasi inexistante. Et donc lui, en fait, à l'époque, ils avaient très, très peur des Anglais, notamment des corsaires anglais. Donc il va proposer de vraiment réaliser autour de l'île une ceinture de feu, c'est-à-dire des batteries armées de canons sur tout le pourtour côtier. Donc, il en propose au total 15 à la construction. Et donc, ces batteries de côte permettaient de défendre toute la mer aux alentours de l'Île-Dieu. Et si jamais des ennemis arrivaient malgré tout à débarquer sur l'île, à prendre l'une de ces batteries, eh bien, les soldats se réfugiaient alors dans une forteresse centrale, ce qui était vraiment le premier fort de Pierre Levée. Et depuis cette forteresse centrale, ils pouvaient attendre les ennemis, tenir un siège pendant plusieurs jours, voire peut-être plusieurs mois, en attendant que les secours arrivent du continent et viennent à leur rescousse.
Ces batteries de côte sont-elles encore visibles sur l'île-Dieu ? Y a-t-il encore des vestiges ?
Alors, il reste quelques vestiges de ces batteries de côte, notamment, on en a une qui se trouve encore entre la carrière, l'ancienne carrière et la Meule, et le port de la Meule. Quand vous prenez ce chemin côtier sur la droite, on a en fait une élévation talutée. Donc là, c'est une ancienne batterie de côte. Hein, ça fait comme une petite butée, tout en longueur. Et à l'arrière de cette batterie de côte, on avait, mais vraiment un petit peu plus dans les terres, donc de l'autre côté du chemin côtier, un corps de garde où les soldats pouvaient s'abriter s'il n'y avait pas d'ennemis en vue, avec une petite cheminée. Et sur l'extrémité de ce petit corps de garde, qui était en pierre, eh bien, on avait aussi une poudrière où ils pouvaient donc avoir leur réserve de poudre pour alimenter ces canons côtiers. Et on a aussi quelques vestiges sous la croix du Châtelet, par exemple. Là aussi, on avait une batterie de côte. Et en arrière, on arrive encore à distinguer un petit peu ce corps de garde. Donc, c'est un petit bâtiment. En tout cas, c'est juste la partie basse de ce petit bâtiment rectangulaire.
Le fort aux Corbeaux n'était pas une batterie de côte ?
Alors, si, bien sûr, le fort des Corbeaux était une batterie de côte. Mais lui, il n'a pas été conçu dès le début. Il faut imaginer que sous ce fort, on a eu une première défense qui date de la même époque de celle dont je viens de parler. Mais beaucoup plus tard encore, la défense de l'île a été repensée à partir de l'année 1846. Et là, on a construit des batteries beaucoup plus conséquentes, beaucoup plus importantes, dont notamment aujourd'hui, on a les vestiges de ces batteries avec le fort des Corbeaux et le fort des Sapins là-bas. Donc du coup, là, dans ces défenses-là, dans ces batteries de côte-là, des soldats pouvaient loger dans ces espèces de petites casemates, ces petits fortins, donc aménagés à partir de la deuxième moitié du 19e siècle.
C'est pour ça que vous dites que cette stratégie défensive était remarquable.
Tout à fait, elle était très remarquable, hein, puisque bien sûr, tout était pensé, hein, que ce soit la défense des côtes, la défense du centre de l'île, mais aussi comment faire pour garder une garnison de soldats sur l'île à l'année, puisque au XIXe siècle, les contacts avec le continent n'étaient pas réguliers, donc on ne pouvait pas amener des vivres depuis le continent toutes les semaines ou tous les mois. On pouvait rester l'hiver sans aucun contact avec le continent. Donc il fallait penser à avoir comme ça une manutention militaire dans l'île pour pouvoir conserver les aliments, préparer la nourriture pour nourrir tous ces soldats. Donc cette manutention militaire qui a été construite à l'époque, c'est le bâtiment qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de la missionnaire là-bas après Saint-Sauveur sur la route pour aller vers le sémaphore. Et donc on a un général qui s'appelait le général Henri qui expliquait très bien qu'il fallait considérer l'île comme un vaisseau flottant et abandonné à lui-même. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment qu'il y ait tout sur place pour pouvoir faire vivre une garnison aussi importante de soldats pendant toute l'année. Et donc, en plus de cette manutention où on avait de quoi les faire manger, eh bien, il fallait aussi avoir notamment un hôpital pour pouvoir les soigner, ces soldats. Donc, cet hôpital militaire, il a été aménagé dans l'ancien grenier à blé du seigneur de l'ancien régime. Donc ce grenier à blé, il se trouve encore à Saint-Sauveur, vraiment au tout début de la rue de Kerguérin, face à la maison du procureur fiscal qui est en cours de rénovation aujourd'hui.
En ce que tu en parlais, Annabelle, Saint-Sauveur, c'était pratiquement la capitale du lieu.
Oui, oui, bien sûr. Hein, ça a été la capitale de l'île jusqu'à une époque assez récente, puisque sous l'ancien régime, c'était là le siège de la paroisse, c'était là où habitait le gouverneur, où habitait le procureur fiscal, c'était là où il y avait le cimetière de l'île, l'église de l'île, la seule jusqu'au XIXe siècle. Donc c'était vraiment autrefois Saint-Sauveur, la capitale, the place to be à l'île-Dieu.
Le fort de la citadelle a été construit quand, lui ?
Alors ce second fort donc, que l'on connaît aujourd'hui, il a été construit à partir de l'année 1858. Hein, le chantier va durer au total 8 ans, donc jusqu'en 1866, sur ordre de Napoléon III. Et il faut imaginer hein, que pour une petite île comme la nôtre, ça a été vraiment un chantier pharaonique, et il n'y a pas d'autre mot. Il a fallu araser la colline de pierre levée, hein, qui se trouvait à cet emplacement-là.
Il y avait un menhir ?
Oui, il y avait un menhir, ouais, ouais. Lui, il est resté en place jusqu'avant la Première Guerre mondiale. Un grand menhir de 7,30 mètres de hauteur, d'où le nom de ce fort de pierre levée, d'ailleurs.
Vous en parlez, d'ailleurs, durant cette
exposition. Tout à fait, sur l'expo, vous trouverez toutes les explications en lien avec ce menhir. Et donc, pour en revenir à la construction du fort, en plus d'araser la colline du fort de pierre levée, il a fallu creuser les douves. Donc ces douves, elles font quand même 10 mètres de profondeur et sur en moyenne 6 mètres de profondeur, c'était que de la roche. Donc il a fallu y aller à la mine, etc. Et puis il a fallu aussi faire venir des ouvriers du continent pour sa construction. On a fait venir à peu près 400 ouvriers du continent, tout corps de métier confondu. Et certains d'entre eux ont fondé de grandes familles sur l'île puisque la plupart de ces ouvriers étaient célibataire. Et donc, on a comme ça des hommes qui ont fondé des familles qui sont encore existantes sur l'île, notamment...
Sous quel nom ?
Une branche des Bernard, des Tonnel ou des Girard proviennent. Donc, ils ont un ancêtre commun. C'était un constructeur du fort de pierre levée.
On connaît le temps de construction de ce fort de la pierre levée ?
Oui, justement, oui, ça a duré 8 ans, ce qui n'est pas énorme finalement. Hein, mais il faut imaginer, bien sûr, des allers-retours hyper important avec les bateaux depuis le continent puisqu'il a fallu ramener pas mal de matériaux. Sur place, on a trouvé la pierre pour le gros œuvre dans les douves, bien sûr le mortier, etc. Mais il a fallu faire venir notamment la chaux du continent, toutes les pierres de calcaire qui viennent de Saint-Savinien dans les Charentes, etc. Donc ça a été quand même voilà, un gros bazar pendant plusieurs années sur l'île pour la construction de ce fort.
Quelles ont été ses fonctions de ce fort au fil des années ? Et du temps.
Alors bien sûr, il a été conçu avant tout pour pouvoir tenir un siège ennemi sur l'île, hein, sur une zone haute et un peu centrale de l'île. Mais le problème, c'est que dès que sa construction a été commanditée, donc en 58, eh bien quasiment la même année, il a déjà été obsolète puisqu'on va dans ces années-là inventer une nouvelle technique d'attaque qui est le canon rayé. Donc le canon rayé, ça a été un peu une révolution dans l'artillerie puisqu'il permettait, grâce à des rayures à l'intérieur du canon et sur le projectile qui à l'époque était des obus, de vraiment pouvoir viser un point très précis. C'était plus du tout aléatoire comme avec les canons classiques et des boulets ronds. Donc là, à cause de ces canons-là, on pouvait plus vraiment faire ce qu'on appelle de guerre de siège, c'est-à-dire venir devant un site, un château, un fort comme celui-ci, et tirer dessus. Ça aurait été très très facile à prendre avec ces canons-là. Donc c'est pour ça que peu à peu, on va aller vers une guerre de mouvement, et notamment la Première Guerre mondiale, c'est ce qu'on appelle une guerre de mouvement, même si les tranchées, ça avançait pas forcément très vite, mais en tout cas, c'est plus du tout des guerres de siège qui vont se passer après ces dates-là, mais des guerres de mouvement. Donc c'est pourquoi, très rapidement, la garnison qui se trouvait à l'intérieur dès l'année 1912 va quitter définitivement le fort, puisque le danger n'était plus du tout. Justement, pour aller sur la frontière est, hein, puisqu'en 1912, c'était plus les Anglais qui menaçaient nos côtes, c'était vraiment plutôt la frontière est qui était très menacée. Donc en 1912, la garnison va quitter l'île, et on a une magnifique photo dans l'expo de la citadelle, où vous verrez justement ce départ de la garnison de l'Île-Dieu donc à cette date-là. Et c'est une photo qui nous a généreusement été prêtée par Popo Henri. Merci à lui.
Il y a aussi l'histoire des internés.
Oui, bien sûr. Donc, une fois qu'il a servi bon an mal an de défense pour l'île, eh bien, en parallèle, il a commencé à servir de prison également. Hein, notamment, les premiers prisonniers sont arrivés juste après sa construction, en 1870. C'était les communards de la Commune de Paris. Et puis ensuite, ces prisonniers vont se succéder jusqu'au maréchal Pétain, forcément. Et donc, on a eu une grosse époque dans cette histoire de prison. C'est vraiment l'époque des internés, où pendant la Première Guerre mondiale, on va interner dans ce fort, au moment de la déclaration de la guerre, tous les hommes en fait, qui se trouvaient sur le territoire français et qui possédaient une nationalité ennemie en fait, à la France. Et donc ces hommes-là, on va les interner dans différents camps. On avait même des camps pour recevoir des familles, mais nous, à l'Île-Dieu, c'était un camp spécifique aux hommes. Et donc, on va avoir jusqu'à 500 messieurs qui vont être internés là pendant 4 ans, dans des conditions parfois plutôt compliquées, même très, très complexes, je dirais. Donc, on a ressorti une expo que Pascal Cariou avait mise en place il y a quelques années, qui est à nouveau visible aujourd'hui dans l'un des couloirs du fort, justement sur la vie de ces internés à la citadelle.
Le maréchal Pétain, il a séjourné combien de temps sur l'Île-Dieu et dans ce fort? Si on peut dire d'ailleurs séjourné.
Alors un tout petit peu plus de 5 ans. Il a commencé, il était dans le logement principal du fort, là où logeait avant lui le capitaine des soldats, si vous voulez, le capitaine de la place.
On rappelle qu'il était emprisonné dans le fort.
Voilà. Il était du coup dans ce logement qui était plutôt confortable et intéressant. Mais très vite, ce qui va se passer, c'est que le seul moyen d'accéder à ce logement, c'était soit d'utiliser des escaliers très pentus ou soit de faire la grande promenade qui permet d'accéder à la terrasse supérieure pour rejoindre ce logement. Et donc, comme chaque jour, le maréchal aller prendre l'air dans la cour, il est devenu pour lui, du fait de son vieil âge et puis aussi de différentes maladies, il est devenu pour lui très, très dur en fait de rentrer dans ce logement. Donc on lui a aménagé à la fin de sa vie un petit local dans la cour du fort. Et puis vraiment à l'extrême fin de sa vie, il a été envoyé dans une petite dépendance de l'hôpital de Nantes qui se trouve à l'Île-Dieu, qui s'appelle le chalet Lucot, qui se trouve dans la Grand Rue, où il a terminé ses jours en 51, en juillet 51.
À partir de quelle date ce fort n'a plus eu d'utilité ?
Alors il n'a pas eu d'utilité très rapidement en tant que fort, évidemment, c'est ce que j'expliquais.
Après,
ça a servi de prison et les derniers prisonniers, en tout cas la dernière fois où il a servi à héberger des gens en lien avec des prisonniers, c'était en 77. Donc à l'époque, on avait des Basques qui étaient assignés à résidence à l'Île-Dieu. Et les CRS qui s'occupaient de ces Basques, eux logeaient au fort de Pierre-Levé.
En t'écoutant, ce fort a toujours eu une utilité.
Bien sûr, oui. En fait, il n'y a pas eu de moment où il n'a plus été occupé ou quoi. Vraiment, il a servi voilà, de prison ou de défense, et aujourd'hui pour les associations et Neptune FM. Donc voilà, ça, c'est resté un lieu un petit peu
vivant,
en mouvement. Voilà, vivant d'une certaine manière.
D'une certaine manière, on est bien d'accord. Annabelle, cette exposition est finalisée ou elle va évoluer au cours des années?
Alors cette exposition, pour l'instant, donc on n'en est que au début, puisque voilà, il y a quand même pas mal de panneaux qui expliquent un petit peu l'histoire du fort, du premier fort, du fort actuel. On a récupéré de très très beaux, de très belles images, des plans d'origine du fort et tout, vraiment des choses vraiment chouettes. Mais elle va évoluer en fait dans les années à venir, et notamment l'année prochaine, puisque je travaille avec une association qui s'appelle l'association 1846, qui est spécialisée dans ce type de défense. Et eux vont venir sur l'île là très bientôt au mois de mai pour pouvoir faire des dessins sur différents détails du fort. Notamment, ils vont me faire un dessin du pont-levis, qui est un pont-levis plutôt génial. C'est ce qu'on appelle un pont-levis à la Poncelet. Et ils vont faire un dessin de ce pont-levis, mais en activité, qu'ensuite, moi, je mettrai sur un panneau. Et comme ça, on verra un petit peu, les gens comprendront un petit peu mieux comment ça fonctionnait. Ils vont aussi me faire un dessin d'un des forts côtiers, donc du fort neuf notamment, en activité aussi, pour que les gens puissent comprendre comment la défense d'un fort comme ce fort neuf sur la côte pouvait fonctionner. Et puis ils vont faire des petits dessins de détails d'architecture, puisqu'on aura un panneau vraiment en lien avec l'architecture spécifique du fort. Donc et puis on espère aussi pouvoir agrandir cette expo et un jour peut-être faire aller le public dans l'un des bastions du fort, une fois qu'on l'aura mis en sécurité, ce qui serait plutôt génial. Ouais.
À partir de quand? On n'a pas de date pour l'instant.
On n'a pas de date, non. Après, tout dépend des budgets, etc. Mais on espère assez vite.
D'ailleurs, il y a aussi une visite du patrimoine pour ce fort de la citadelle.
Tout à fait. En parallèle à l'expo, je fais une visite sur l'histoire de ce fort. Alors, bien sûr, cette visite, on dit toujours c'est la visite de la citadelle, mais tout comme l'expo, c'est plutôt une histoire de la défense de l'île depuis quasiment l'implantation du château jusqu'à la construction de ce nouveau fort de pierre levée. Donc cette visite
reprend l'exposition, on peut dire ça comme ça.
Elle reprend un peu l'expo, mais on va surtout dans des endroits qui sont pas accessibles au public. Donc notamment, on descend dans les douves, on va dans un bastion, on monte sur le grand parapet qui se trouvait derrière la salle Louis Michaud. Enfin voilà, ça permet vraiment d'avoir un autre aperçu de ce fort. Et puis surtout, on commence loin du fort, on commence face à l'école privée là-bas. Et puis, on pénètre peu à peu comme ça dans les bois pour voir les vestiges du premier fort, etc. Donc, c'est une balade chronologique, mais aussi très sympa, très verdoyante et tout. Donc, voilà, c'est un petit peu un autre point de vue pour découvrir le fort.
On retrouve toutes ces informations sur ilterrieux.fr.
Tout à fait. Et puis, bien sûr, à l'office de tourisme et sur Internet, effectivement.
Merci, Annabelle Chauvetot, de toutes ces informations et de cette page d'histoire. À très bientôt.
Merci à vous, à bientôt.
On rappelle, tu es guide conférencière à la mairie de l'Île-Dieu au service patrimoine.